Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
À 19h15 précisément, Valentin Marconne s'est rendu aux gendarmes après 4 jours de traque.
Il s'est présenté aux gendarmes en s'excusant, sans coup de feu ni résistance. Le tueur présumé des Cévennes est ce soir en garde à vue après 4 jours d'une traque hors norme. Les détails de cette reddition dès le début de ce journal. Dans la Loire, un policier entre la vie et la mort après avoir reçu un projectile sur la tête. Il intervenait sur une banale affaire de tapage nocturne. 5e nuit de bombardement au Proche-Orient. L'armée israélienne intensifie ses frappes sur la bande de Gaza. Et ce n'est pas encore fini, prévient Benjamin Netanyahou. La manifestation de soutien aux Palestiniens interdite demain à Paris. Le gouvernement veut tout faire pour éviter le scénario de 2014, émeute urbaine et cris antisémites. Nous irons en Bretagne où 25 000 autotests sont distribués gratuitement dans les gares. Objectif que les vacanciers du pont de l'Ascension ne débarquent pas avec le Covid dans leurs valises. À la une également, Joe Biden autorise les Américains vaccinés à retirer le masque à l'extérieur comme à l'intérieur. Quand pourra-t-on en faire de même? Réponse dans ce journal. Certains cadres des Républicains hurlent à la trahison. Renaud Muselier a présenté sa liste pour les régionales en PACA. 15 membres de la majorité y figurent. Et puis Neymar ne jouera pas la finale de la Coupe de France. Le milieu du PSG est suspendu pour un simple carton jaune. La météo, elle sera encore humide demain. Nouvelle journée pluvieuse avec des averses sur la moitié nord et des pluies plus marquées dans le sud. Quant aux températures, elles vont rester en dessous des normales de saison, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a terminé la semaine en fanfare, plus 1,54% à 6385 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Comment les grossistes préparent-ils la réouverture des restaurants? Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Pascal Pelletier, le directeur général de Métro France. Et enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'épilogue d'une traque qui durait depuis près de 4 jours. L'auteur présumé du double meurtre dans les Cévennes s'est donc rendu en début de soirée. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé dans un tweet. Et Stéphane Frangy, vous êtes notre envoyé spécial dans le Gard. Est-ce que l'on en sait plus ce soir sur les circonstances de cette reddition ?
Oui, effectivement, les gendarmes, le parquet, tout le monde vient de donner une conférence de presse générale pour nous expliquer ces conditions. Valentin Marconne s'est rendu tout simplement aux gendarmes aux alentours de 19h15. Il était pris en étau, tout s'est passé lors d'un ratissage. D'un côté le GIGN, de l'autre une équipe cynophile. Il sort alors de sa cache, il croise à ce moment-là une patrouille de gendarmerie et il va s'adresser à eux dans ces mots. « Excusez-moi, je me rends. » Il se tairait, il était camouflé sous des branchages en fait, tout simplement. On est peut-être déjà passé à côté, juste à côté de lui, reconnaît le commandant de gendarmerie durant ses jours de ratissage. Et il était à faible distance de son domicile, en fait. Et au moment de se rendre, eh bien, Valentin Marconne était affaibli, vraiment hagard. Il a fallu lui donner à boire, à manger au moment de le récupérer. Il n'avait plus d'armes sur lui quand il s'est rendu à ce moment-là. On ne sait pas où sont ses armes pour le moment. Il s'est rendu de guerre lasse, nous dit-on, au bout de ses réserves de nourriture, notamment alors qu'une nouvelle nuit se profilait dans le parc des Cévennes. On rappelle que 350 hommes étaient mobilisés à sa recherche depuis mardi, d'importants moyens sur terre et dans les airs. Valentin Marconne, qui est actuellement en garde à vue, on rappelle qu'il est poursuivi pour double assassinat.
Stéphane Frangy, envoyé spécial d'Europe 1 dans le Gard. Et puis notez que le général Ghislain Réty, le commandant du GIGN qui était en charge de cette traque, sera demain matin l'invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1. Il répondra à partir de 8h15 aux questions de Pierre de Villeneuve. La région parisienne, une nouvelle fois endeuillée après une probable rixe entre jeunes. Une adolescente de 17 ans a été tuée à coups de couteau à Ivry-sur-Seine. Ça s'est passé aujourd'hui dans une cité de la ville. L'auteur présumé vient d'être interpellé. Il n'est âgé que de 15 ans. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un représentant des forces de l'ordre soit blessé ou pire, tué dans l'exercice de ses fonctions. À Rive-de-Gier, dans la Loire, le pronostic vital d'un policier est ce soir toujours engagé. Il a reçu un projectile sur la tête lors d'une intervention la nuit dernière, Guillaume Bié.
Oui, au départ, c'est une banale affaire de tapage nocturne. Une quinzaine de personnes alcoolisées qui font du bruit en pleine rue à minuit alors que le couvre-feu est toujours en vigueur. Des riverains appellent la police. Un équipage de 3 fonctionnaires tente de ramener le calme, mais la tension monte très vite. Et sous une pluie de projectiles, 2 policiers se réfugient dans leur voiture tandis que le 3e tombe inanimé. touché à la tête. Au fil des heures, son état de santé s'est aggravé. Il a été opéré, mais il est toujours dans le coma. C'est un policier et père de famille de 50 ans, très expérimenté, qui a fait toute sa carrière à Rive-de-Gier, qui a déjà frôlé la mort en intervention. C'était il y a 10 ans. Il s'était fait tirer dessus et avait eu la vie sauve grâce à son gilet pare-balles. Cette fois, son pronostic vital est engagé. L'enquête est menée par la Sûreté départementale, analyse en cours sur les projectiles retrouvés sur place. Visionnage des bandes de vidéosurveillance du quartier. Le procureur adjoint a également lancé un appel à témoins à quiconque permettrait d'aider à retrouver les agresseurs, y compris avec la possibilité de témoigner anonymement.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. C'est la hantise du gouvernement que le conflit israélo-palestinien s'exporte d'une manière ou d'une autre sur le territoire national. On va y revenir dans un instant. Une crainte nourrie par l'intensification des violences au Proche-Orient. Bande de Gaza pilonnée par Tsahal, tirs de roquettes incessants du Hamas et parfum de guerre civile en Cisjordanie. Plus de 120 Palestiniens tués, une dizaine côté israélien. Et plus que jamais ce soir, Pierre Herbulot, l'escalade continue.
Oui, et le conflit se régionalise de plus en plus. À l'est, des roquettes viennent d'être tirées par la Syrie vers Israël. Elles se sont abattues dans des zones non habitées, précise l'armée. Au nord, à la frontière avec le Liban, un membre du Hezbollah a été tué par balle lors d'une manifestation qui a dégénéré. Même chose plus au sud, en Cisjordanie, 10 Palestiniens sont morts dans des affrontements avec l'armée israélienne. Mais c'est bien dans la bande de Gaza, au sud-ouest, que le tribut humain est le plus lourd. Au moins 119 personnes tuées et plus de 800 blessés en une semaine. Les frappes aériennes et les tirs d'artillerie se sont intensifiés. Réponse aux près de 2000 roquettes tirées par le Hamas vers Israël depuis lundi. La plupart interceptées par le bouclier antimissile Dôme de Fer. Tension maximale dans la région et ce n'est pas encore fini. Ils continueront de payer chèrement. Déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou cet après-midi, à deux jours d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.
Précision signée Pierre Herbulot pour Europe 1. L'Élysée qui s'inquiète également des risques de contagion de ce conflit sur le sol national. On se souvient du précédent de 2014, lorsqu'une manifestation pro-palestinienne avait dégénéré en émeute urbaine. Mort aux Juifs, avaient scandé certains participants. Et voilà pourquoi Gérald Darmanin a fait interdire la marche prévue demain à Paris. Le ministre de l'Intérieur s'en est expliqué tout à l'heure.
Il ne peut pas y avoir de manifestation de haine, il ne peut pas y avoir de manifestation antisémite en France. Et donc j'ai pris la décision de demander au préfet de police d'interdire cette manifestation, vu les renseignements que nous avions, qui ne pouvaient pas se passer dans de bonnes conditions. Le conflit israélo-palestinien est un conflit évidemment extrêmement touchant pour la plupart de nos compatriotes. Nous avons tous une opinion, des sentiments face à ces images ignobles qui nous viennent d'Israël et de Palestine, mais il ne doit pas s'exporter sur le territoire national. Et je veux dire que nous ne devons pas revivre les scènes ignobles de 2014 dans les rues de Paris.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cette interdiction, en tout cas, divise la classe politique. La maire de Paris, Anne Hidalgo, salue une sage décision. Indignation, en revanche, du côté de la France insoumise qui dénonce une provocation. Les organisateurs de la marche pro-palestinienne maintiennent ce soir leur appel à manifester en dépit de l'interdiction confirmée par le tribunal administratif.
Europe Soir, Julien Pierce.
Il faut tenir le message de Jean Castex dans un centre de vaccination dans le Gers. Le Premier ministre assure que de nombreuses doses vont arriver en juin et avec elles l'ouverture de nouveaux centres. On devrait atteindre demain le seuil des 20 millions de primo-injections, soit à la date prévue. Jean Castex est revenu aussi sur la question du lieu de vaccination, que les Français n'hésitent pas à prendre rendez-vous là où ils partent en vacances, a-t-il dit. Ça va aussi pour le dépistage. Vous êtes nombreux en ce week-end prolongé à avoir mis le cap à l'ouest, direction la Bretagne, où des autotests sont distribués gratuitement à la descente des trains, comme à la gare de Rennes, Charles Guyard.
Oui, 25 000 autotests en tout sont en effet distribués à tous les points d'arrivée en Bretagne, comme cet après-midi à la gare de Rennes.
Bonjour, on distribue des autotests pour le Covid, ça vous intéresse ?
À la descente d'un train en provenance de Paris, Laurine de la protection civile donne donc une boîte à Alix et à Karine.
C'est bien parce qu'en plus je reviens de Paris, donc l'angoisse, il y avait tellement de monde, c'était horrible.
Vous allez le faire ce test ?
Bah du coup oui, maintenant que je l'ai, c'est cool.
J'espère qu'il y a tout ce qu'il faut pour nous indiquer comment procéder parce que pour le coup j'ai jamais essayé.
Pas d'inquiétude, une fiche explicative est fournie avec le kit. En moins d'un quart d'heure, le résultat tombe, un trait c'est négatif, deux positif.
Le week-end sera peut-être pas tout à fait le même que celui qui était prévu.
Stéphane Mulliez, directeur directeur de l'Agence régionale de santé de Bretagne.
Si une personne est positive, on va l'inviter à observer les mesures d'isolement. Et si vraiment il est nécessaire, nous pouvons proposer en lien avec les préfectures des dispositifs de chambres d'hôtel pour que les personnes puissent s'isoler.
Au milieu de quelques refus, de nombreux voyageurs repartent tout de même avec une boîte comprenant chacune 5 autotests et tous se disent prêts à ne plus sortir en cas de Covid avéré, quitte même à prolonger le séjour en Bretagne.
Bah, si c'est positif, on va trouver un hôtel.
De toute façon, mon employeur ne me permettrait pas de revenir sur site, donc je resterai isolé.
Ah bah je bouge pas de chez moi, ça c'est clair.
Je m'isole de toute façon, ça c'est sûr, dans un hôtel ou un truc comme ça.
Vaut mieux faire attention à ses proches.
L'opération est menée tout le week-end dans les gares donc, mais aussi aux embarcadères pour les îles bretonnes.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. Aux États-Unis, les masques commencent à tomber. Ils ne sont plus obligatoires à l'extérieur comme à l'intérieur pour ceux qui ont été entièrement vaccinés, soit près de 35% de la population. Et c'est Joe Biden qui l'a annoncé la nuit dernière, tout sourire dans les jardins de la Maison-Blanche. Un sourire éclatant que l'on aimerait bien, nous aussi, pouvoir arborer. Anne Le Gall, quand est-ce que viendra notre tour ?
Alors effectivement, la question se pose parce que pour l'instant, chez nous, le Haut Conseil de la Santé publique recommande toujours le port du masque même après 2 injections, à l'exception des rencontres dans la sphère privée entre personnes entièrement vaccinées. Parce qu'il faut rappeler que si les vaccins empêchent les formes graves de Covid, ils ne bloquent pas totalement les transmissions. Et pour que les vaccinés puissent abandonner le masque, explique le professeur Philippe Amouyel, médecin de santé publique au CHU de Lille, il faut donc aussi un contexte sanitaire favorable.
Cela suppose, comme aux États-Unis ou en Israël, deux conditions essentielles. La première, c'est une population française vaccinée suffisamment importante, et la deuxième, un taux de circulation lui aussi suffisamment bas. Il faudrait qu'on puisse atteindre aux alentours de 5000 contaminations quotidiennes pour pouvoir commencer à penser à libérer significativement la population de ces contraintes de masque.
Nous sommes donc encore loin de réunir ces critères car nous venons tout juste de passer sous la barre des 20 000 contaminations quotidiennes. Mais si le déconfinement se passe bien, sans aucun rebond épidémique et que le gouvernement tient ses objectifs de campagne vaccinale, on pourrait théoriquement réunir ces conditions et notamment plus de 60% de la population vaccinée à partir de début août.
Il va donc falloir encore patienter. Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. En attendant de pouvoir tomber les masques, on se consolera avec les chiffres de l'épidémie. Elle continue de décroître, nos efforts paient. Baisse des contaminations et des hospitalisations. 4352 malades du Covid sont ce soir en réanimation. Ce sont 90 patients de moins que la veille. En politique, la campagne des régionales s'accélère et divise, surtout du côté des LR, le parti de Renaud Muselier qui a présenté aujourd'hui sa liste pour la région PACA, où le RN de Thierry Mariani caracole en tête des sondages, liste où sont présents 15 candidats de la majorité présidentielle. Une trahison pour certains caciques des Républicains, comme le numéro 2, Guillaume Pelletier. « Je voterai blanc au premier tour si j'étais électeur en PACA », a-t-il dit. Écoutez ce que lui répond Renaud Muselier.
Et j'ai un message très spécifique pour ma famille politique. C'est ma colonne vertébrale. Ceux qui se compromettent aujourd'hui en appelant à ne pas voter pour moi sont des irresponsables et nous soutiennent de fait le seul traître de cette élection, Thierry Mariani. J'en appelle à la responsabilité de chacun et à la fin de l'hystérie. Ils remettent en cause la ligne rouge héritée de la fondation du RPR, de l'UMP et des Républicains. Pas de compromission avec l'extrême droite et avec le Front National.
Renaud Muselier, le président de la région PACA, est candidat à sa réélection. Autre région où ça s'active, les Hauts-de-France. L'exécutif fait tout pour empêcher Xavier Bertrand d'être réélu. Après Éric Dupond-Moretti, 3 nouveaux ministres, dont Gérald Darmanin, ont rejoint la liste LREM, emmenée par le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski. Sont aussi présents les ministres Agnès Pannier-Runacher et Alain Griset. On termine avec le foot et cette affiche rêvée mercredi prochain pour la finale de Coupe de France. Le PSG va affronter l'AS Monaco, duel très relevé en perspective entre le deuxième et le troisième du championnat. Mais il manquera un ingrédient pour pimenter encore davantage ce match. J'ai nommé Neymar. Le Brésilien sera suspendu alors qu'il n'a pas reçu de carton rouge en Coupe de France. Simon Rubin, éclairez-nous, comment est-ce possible ?
Oui, alors c'est vrai que de prime abord, ça peut paraître un peu bizarre. Neymar n'a pas été expulsé contre Montpellier, il a simplement reçu un carton jaune et c'est tout. Mais Mais Neymar avait avant cela été expulsé contre Lille en championnat. Et le fait en fait d'être à nouveau sanctionné en Coupe de France a fait sauter un sursis dont il bénéficiait. Et cela a donc alourdi sa sanction. Le voilà donc exclu pour la finale. Alors, c'est un peu étrange, un joueur suspendu pour la finale sans avoir pris de carton rouge dans cette même compétition. D'ailleurs, l'intéressé lui-même a réagi sur son compte Instagram. « J'aimerais être dans la tête de celui qui a fait le règlement des cartons en France. Il mérite des applaudissements. Quelle confusion » souligne-t-il, non sans une certaine ironie, vous l'aurez noté. Alors attention, l'histoire elle est peut-être pas finie. Le PSG peut demander une conciliation auprès du CNOSF, hein, le comité olympique. Une démarche qui pourrait permettre de suspendre la sanction et donc offrirait à Neymar la possibilité de jouer cette finale.
Affaire à suivre donc. Merci Simon Rubin du service des sports. Je précise que cette finale de Coupe de France entre le PSG et l'AS Monaco sera à suivre mercredi prochain en direct et en intégralité sur Europe 1. La météo, Anissa Haddadi, au programme demain, une nouvelle journée pluvieuse.
Oui, avec une nouvelle perturbation, en effet, Julien, qui traverse le pays demain, donc des Pyrénées-Atlantiques jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, la région parisienne ou encore le Grand Est. Demain, dans toutes ces régions, il pleut dès le début de journée. Sur le quart nord-ouest, en Bretagne, Normandie, Centre-Val de Loire, là le temps reste sec et ensoleillé le matin. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les nuages viendront de temps en temps masquer le soleil. Et puis dans l'après-midi, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Alpes, le temps reste toujours bien pluvieux hein, sur cette grande moitié sud du pays. Sur la moitié nord, là le ciel alterne entre nuages, éclaircies et averses. Avec d'ailleurs sur la Bretagne, l'Île-de-France et les Ardennes, des orages demain après-midi. Au bord de la Méditerranée, rien à signaler, hein, à part des averses du côté des Cévennes. Le temps reste plutôt sec, mais vous l'avez compris, nous avons de la pluie ou des averses sur les trois quarts du pays. Les températures, elles sont stationnaires, quasiment les mêmes qu'aujourd'hui, avec 4 à 13 degrés demain matin. Nous aurons 6 à Chambéry, 7 à Lille et Dijon, 8 degrés pour Brest, Metz et Clermont-Ferrand, 9 à Paris et Lyon, 11 degrés à Marseille et 13 à Nice dans la journée. C'est comme aujourd'hui, toujours frais pour la saison, avec 12 degrés à Aurillac, 15 à Nancy, Lorient, Lyon et Bordeaux, 17 degrés pour Paris et Rennes, 19 à Biarritz, 21 à Nice et 22 la maximale pour Perpignan.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse, top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Comment les grossistes préparent-ils la réouverture des restaurants mercredi prochain? Pour en parler, Emmanuel Dutheil reçoit dans quelques minutes Pascal Pelletier, le directeur général de Métro France, le premier fournisseur de la restauration indépendante. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street a terminé la séance en hausse ce soir, ce qui permet au Dow Jones de limiter la casse sur la semaine.
Oui, ça va mieux, ça va un petit peu mieux. Le Dow Jones remonte d'1%. 34 380 points, le Nasdaq reprend 2,3%, ce sont les valeurs de technologie qui rebondissent le plus, 13 430 points. Sur la semaine, effectivement, cela permet aux indices américains de limiter leur retard, respectivement à moins 1% sur le Dow Jones et moins 2% sur le Nasdaq. Les craintes de résurgence de l'inflation s'estompent un petit peu. Alors que les ventes au détail en avril sont ressorties stables aux États-Unis, les analystes attendaient une hausse d'1%. Cela signifie que le rebond de l'activité est peut-être moins puissant que prévu. Les marchés craignent surtout la surchauffe et l'emballement de l'inflation. Donc ça explique cet apaisement, on va dire. Ce soir, avec des rebonds sur Apple, plus 2,2%, Tesla, plus 3,2%, Microsoft, plus 2,4%, des hausses de l'ordre de 2 à 3% aussi sur Facebook, sur Google, sur Intel et Amazon. Le pétrole aussi remonte de 2,5%, il avait un petit peu baissé hier, $65,40 le baril, ça permet à Exxon de reprendre 2,5%. Il y a quand même une exception, ce soir c'est Walt Disney qui perd 2,6%, $173,60, après le ralentissement du nombre d'abonnements à son service de streaming Disney+. C'est une déception, c'est la déception du jour, Walt Disney en baisse ce soir. L'euro sur les devises pointe stable, 1,2140 face au dollar.
La Bourse de Paris a elle aussi rebondi nettement de plus de 1,5% sur le CAC 40.
Oui, 1,54%, 6385 points, ce qui permet au marché parisien d'effacer ses pertes sur la semaine, une semaine qui avait mal commencé. ça se termine nettement mieux. Comme hier déjà, ce sont d'ailleurs les valeurs du secteur du luxe qui ont favorisé la tendance, à commencer par LVMH, le leader du luxe, plus 2%, 628 euros. Là, c'est Goldman Sachs, l'analyste, qui vise désormais un cours de 700 euros sur LVMH, toujours plus haut, donc encore en hausse de 2% ce soir. Et puis le secteur automobile s'est repris avec Renault, plus 3,3%, Faurecia, plus 3,2% et Valeo, plus 1%. Même chose pour l'aéronautique, ça va un petit peu mieux en vue de la normalisation des relations entre Boeing et Airbus, promise par Joe Biden. Airbus regagne quasiment 4%. Safran suit le mouvement en hausse de 3,8% ce soir.
Et puis l'exception du jour, rapidement Didier, le titre Danone n'a pas profité de la remontée boursière du jour.
Moins 0,3%, une petite déception. C'est encore Goldman Sachs, hein, le broker, qui a dégradé la valeur avec un objectif de cours ramené de 60 à 53 euros. Donc ça donne une baisse de 0,3% sur Danone. Les autres places financières remontent donc un petit peu partout. Le DAX à Francfort, plus 1,4%. Bruxelles, plus 0,8%. Milan, plus 1%. Et le CAC 40 en hausse d'1,54%, 6385 points.
Merci beaucoup Didier Hamaux de Boursier.com et à lundi. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Pascal Pelletier.
Bonsoir à tous.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Métro France. Alors Métro France, c'est quoi ? Eh bien, c'est le premier fournisseur de la restauration indépendante en France. La restauration, c'est 75% de votre activité. Après, il y a tous les métiers de bouche, hein, qui sont également importants pour vous. On pourrait citer par exemple les boulangers, les pâtissiers ou les vendeurs de primeurs. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est parce que ça y est, l'activité est en train de repartir. Les restaurants vont pouvoir rouvrir progressivement à compter de mercredi pour les terrasses et à compter du 9 juin, alors avec des protocoles sanitaires adaptés, mais à partir du 9 juin pour l'intérieur des restaurants. Vous le voyez là, concrètement, vos clients sont en train de revenir ?
Oui, absolument. Depuis une dizaine de jours, on voit effectivement nos clients revenir pour en fait s'approvisionner sur deux grands types, j'irais, de produits. D'abord, tout ce qui est autour du non-alimentaire, c'est-à-dire que voilà, nos clients remettent en route leur cuisine et eh bien, ils peuvent faire des investissements pour sur du petit matériel, sur des arts de la table, sur aussi tout ce qui est matériel froid, aussi tout ce qui est hygiène, parce qu'il faut effectivement qu'ils nettoient de fond en comble tout leur établissement, donc tous les produits d'hygiène, et notamment avec les nouveaux protocoles. Ce sont aussi des ventes qui sont très dynamiques en ce moment. Et puis aussi toute la partie, je dirais, ce que nous on appelle sec ou liquide, sur lequel il n'y a pas une délio trop courte. Ce sont aussi des éléments sur lesquels nos clients reviennent en ce moment pour faire ce qu'on appelle leur économa.
Et dans un deuxième temps, j'imagine que vous allez voir là, les ventes de produits alimentaires qui vont repartir. Vous avez stocké parce que, mine de rien, il va falloir tout redémarrer en même temps. Vous avez rarement l'habitude d'un redémarrage comme cela à une date précise.
Exactement. Donc, il a fallu effectivement faire preuve d'anticipation avec l'ensemble de nos fournisseurs. Métro France, on travaille avec 4000 fournisseurs, essentiellement des PME ou des TPE. Et il a fallu effectivement anticiper avec eux de plusieurs semaines, parce que certaines productions demandent plusieurs semaines. Lorsqu'on travaille, vous imaginez, avec des volaillers ou des maraîchers, ça ne pousse pas du jour au lendemain, une volaille ne s'élève pas du jour au lendemain. Donc en fait, ça fait plusieurs semaines que nos équipes anticipent avec nos fournisseurs, avec une certaine prise de risque. Mais voilà, c'était essentiel pour qu'on puisse aujourd'hui, je peux vous dire que l'ensemble de nos magasins, eh bien, de nos 98 entrepôts sur le territoire français, sont à bloc. Tous les stocks sont prêts pour accueillir nos clients.
Vous êtes une vigie assez extraordinaire de la situation des restaurateurs, puisqu'un bon nombre de restaurateurs vient s'alimenter directement chez vous. Comment vous les voyez ? Quel est l'état d'esprit ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils ont hâte de rouvrir, j'imagine, mais est-ce qu'ils ont un peu de sous pour investir ou cette période les a mis complètement à plat ?
Alors, globalement, cette période a été très, très difficile et il était vraiment temps que l'activité puisse repartir. Parce que je vous rappelle que le confinement, c'est 7 mois de fermeture depuis fin octobre. Le premier, ça avait été un mois et demi, ça avait été très sévère. Là, c'est depuis fin octobre que l'ensemble de la restauration, effectivement, a dû fermer ses portes. Donc, on a quand même eu un État qui a joué son rôle, et ça, je dirais, l'ensemble de la profession, et moi le premier, on le salue, avec des aides qui ont permis effectivement à nos clients restaurateurs de tenir jusqu'à aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment effectivement un soulagement.
Mais vous avez l'impression que les paniers moyens sont plutôt en baisse parce que les restaurateurs se disent « on va prendre le minimum ».
Alors effectivement, c'est ce qui s'est passé de toute façon depuis 7 mois et notamment aujourd'hui. Ils viennent chez nous en plus grand nombre, mais plusieurs fois. Une fréquence qui s'est augmentée et avec un panier moyen, comme vous le disiez très très bien, qui a diminué. C'est-à-dire que voilà, on vit un peu au jour le jour et on est très précautionneux.
Vous ne vous êtes jamais arrêté pendant ces confinements. Vous avez été là parce que les restaurateurs, pour une partie assez importante d'entre eux, on fait ce qu'on appelle du click and collect. Vous les avez vus venir dans vos restaurants, dans vos magasins. Est-ce que vous avez l'impression que ça a marché pour eux?
Alors, il y a eu des fortunes diverses, vous savez. Je dirais qu'en moyenne, de ce qu'on a observé, c'est qu'un restaurateur qui faisait de la vente à emporter ou click and collect, ça représentait en moyenne 20 à 25% de son activité normale lorsqu'il travaillait bien. Certains, ça a été plus, d'autres moins. Mais c'est vrai que voilà, nous avons pu, durant ces 7 mois, sur nos 98 halles partout en France, accueillir ces clients. Et on a pu juger effectivement un peu de leur état d'esprit. Ils étaient très, très soucieux, mais ils avaient vraiment très envie de redémarrer. Et c'était un plaisir pour eux d'avoir même ce minimum d'activité.
Comment vous voyez-vous l'avenir, d'une certaine manière, de la restauration? Là encore, des contacts que vous pouvez avoir avec les restaurateurs. Vous avez l'impression que cette crise va faire fermer une partie des restaurants ou au contraire, parce que beaucoup s'attendent quand même à une reprise assez forte, notamment dans les zones touristiques cet été, et ça pourrait repartir assez « normalement », entre guillemets?
Alors, ce que j'observe, c'est que la reprise va être globalement progressive, d'une façon générale. Elle va être plus lente, notamment en région parisienne ou dans les grandes métropoles, où il y a quand même le télétravail qui fait que tous les repas du midi ne vont pas revenir à 100%. A contrario, sur toutes les zones, je dirais, estivales, je pense notamment au sud-est, au sud-ouest, et où les terrasses représentent une très grande partie des affaires, eh bien là, ça va repartir très très fort, très très vite. Donc là encore, il est difficile d'avoir des perspectives. Ce que l'on pense, c'est que sur 2000, si je vous parle de 2022, on sera sur une tendance quand même encore autour de moins 15.
Mais par exemple, parce que vous attendez une forte reprise dans les zones touristiques, vous avez mis plus de produits dans les magasins métro qui desservent les zones touristiques que ce que vous auriez fait traditionnellement?
Absolument. Là, c'est vrai que, vous savez, toute entreprise, pour avoir une bonne gestion, il faut qu'elle fasse attention à ne pas avoir trop de stock, parce que le stock coûte de l'argent. Là, forcément, on a été complètement à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a vraiment surstocké de l'ensemble des produits pour tous nos magasins qui sont dans des zones estivales, dans les zones côtières. Et on a dû aussi organiser ce qu'on appelle des stocks supplémentaires, des stocks de déport, pour vraiment être au rendez-vous, parce que là, ce sont des zones où ça va repartir très, très, très fort.
Vous disiez tout à l'heure, on a fait un pari. Quel est votre plus gros pari que vous ayez fait pour cette reprise où vous dites, oh là là, il faut que ça marche comme on a prévu?
Alors, ça va être surtout ce qu'on appelle les produits frais, ou les produits extra frais, c'est-à-dire tout ce qui a, une DLUO, une durée limite de vie aux alentours de 3 semaines, de 3 semaines à mois, ou beaucoup plus court. Donc on a fait des très grosses commandes en fruits et légumes. On a anticipé aussi sur toute la marée, sur la boucherie. Donc là, on a fait vraiment effectivement des très gros risques. Mais c'est à ce prix-là, entre guillemets, qu'on pourrait être au rendez-vous pour nos clients, parce que eux ne comprendraient pas qu'après ces 7 mois, de galère, le métro ne soit pas au rendez-vous pour eux.
Eh bien, on va croiser les doigts pour vous. Un grand merci, Pascal Pelletier. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Métro France. Un grand merci d'avoir été notre invité ce soir. Nous, on se retrouve lundi, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. On vous retrouvera également lundi à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Et à l'occasion de la semaine de l'agriculture que soutient Europe 1, vous serez en direct de la ferme des Peupliers en Normandie. Bonsoir, Sana Blanger.
Bonsoir Julien.
3921 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant.
Absolument, il y a de la place d'ailleurs, donc je vous invite à nous contacter.